retrouver Rose pour l'émission Contradiction sur IDFM Radio, un temps dédié aux gens qui se donnent du mal pour aller bien.
J'ai changé de mode en fait. Là maintenant, je vis. J'étais vraiment en survie, hein, et c'était même plus de la survie. Là. Ça devenait. Ouais, des fois, je pouvais m'étonner que tiens, je me suis
tu
pas fait choper.
C'est l'enjeu de réussir à s'habiter, quoi. Se réhabiter en tout cas. Et de se ressentir, mais parce qu'à l'intérieur de soi, ça peut être tellement désagréable, tellement en souffrance qu'on n'a pas envie d'y être. Fait qu'on,
ouais, je comprends.
On s'en va.
Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Des champignons hallucinogènes pour traiter l'alcoolisme sévère, ce qui semblait relever de la science-fiction est aujourd'hui une réalité médicale qui se dessine. Dans un contexte où l'alcoolisme et la dépression constituent des fléaux mondiaux, une étude clinique inédite réalisée au CHU de Nîmes explore l'usage de la psilocybine, un psychédélique longtemps stigmatisé, pour traiter ces pathologies dévastatrices. Dans ce cadre, une première au monde. Une séance de 6 heures sous psychédélique, accompagnée d'un suivi intensif, pourrait équivaloir à une année de thérapie. Cette approche révolutionnaire cherche à restaurer la souplesse cognitive des patients, leur permettre de briser les schémas rigides de l'addiction et de redonner un sens à leur existence. Antonin Blanc, journaliste chez Combini, a eu l'opportunité de suivre de près cette expérience. Dans un documentaire stupéfiant, c'est le moins qu'on puisse dire, il nous fait plonger dans les coulisses de cette étude où les patients affrontent leurs traumatismes les plus enfouis au moyen de cette thérapie psychédélique. Il explore également les implications profondes de cette thérapie qui pourrait bien redéfinir les paradigmes de la santé mentale et de l'addiction. Parmi les patients suivis, John, un père de famille de la cinquantaine, a accepté de partager son histoire. Après avoir lutté des années contre un alcoolisme sévère, il a subi une session de psilocybine. Ce qu'il a vécu, ce qu'il en retire aujourd'hui, témoigne d'une transformation émotionnelle et mentale prodigieuse. Une expérience qui repousse les frontières de la guérison. Quelles sont les véritables promesses et les limites de cette approche? Peut-on vraiment redéfinir la manière dont nous traitons l'alcoolisme et la dépression à travers des substances jadis interdites? C'est ce que nous tenterons de comprendre dans cet entretien dans lequel Antonin Blanc et John nous guideront à travers les enjeux scientifiques, humains et philosophiques d'une révolution thérapeutique en marche. Un véritable voyage entre science et expérience humaine à la croisée des chemins entre le possible et l'impossible. Merci beaucoup Antonin et John d'être avec nous aujourd'hui pour un sujet qui me passionne. C'est rare qu'on reçoive deux personnes, donc c'est, pour moi ça va être peut-être un peu compliqué, mais... Je vais y arriver avec mon TDAH et je voulais savoir déjà quelle était votre définition de l'addiction, chacun séparément évidemment.
Vas-y, je suis sûr que tu m'as préparé.
Après, c'est ce que c'est Antonin qui commence.
Moi, j'aime bien celle de Gabor Maté, qui est un plaisir à court terme et un problème à long terme, on va dire. Et personnellement, j'ai souvent vu ça comme un étau, une sorte d'étau métallique et qui nous empêche de sortir de nous-mêmes, d'être nous-mêmes, quoi. Il y a une faille dans cet étau, c'est là que les substances rentrent par là et on se répète, on est bloqué à se répéter.
Ouais, on le voit bien de toute façon dans le reportage et dans tout ce qui est de neurosciences, de voir cette rigidité, de voir qu'on n'a pas le choix que de faire exactement la même chose tout le temps. Quoi.
Ouais, on répète. Ouais.
Et toi, John?
Alors moi, il y a un mot qui m'est... j'avais un peu préparé. Ouais, j'ai écouté quelques épisodes, les premiers en fait.
Très bien.
Parce que bah, ça va venir en ligne avec le mot. C'est le mot compulsion en fait. Donc moi je suis assez compulsif. C'est-à-dire que quand je fais un truc, j'en fais tout de suite beaucoup. Donc évidemment l'alcool ça n'a pas arrêté, j'en ai fait un peu, j'en ai fait beaucoup. Mais voilà, je suis compulsif dans pas mal de domaines, dans ma vie, dans le sport. C'est pas une petite course, c'est pas une grande course, c'est une très grande course.
Du genre.
Voilà, je fais toujours des.
Tu fais des marathons, des ultra trails,
des ultra trails.
Donc, voilà. Un grand sportif.
Ouais, ouais. Quoi, grand sportif, non, je suis pas une bête de sport, mais par contre, j'adore me mettre dans quelque chose d'intense pour des dizaines d'heures, en fait. Ça, voilà, ça.
Ok, tu vas chercher ta dopamine
ailleurs.
Ouais,
je vais chercher un peu partout, mais j'ai besoin de ça, en fait. Donc voilà, compulsion.
Obsession compulsion.
Ouais, c'est pas vraiment une obsession, parce que c'est pas un truc qui me tourne la tête.
Je suis d'accord avec
toi. Faut que j'aille faire du sport. C'est juste que quand je suis dedans, je le vis à fond. Alors, je le vivais un peu moins à fond depuis 4 ans, là, mais je le vis à fond. Là. Donc, compulsif. J'achète un bouquin, je m'intéresse à un sujet, je ne vais pas acheter un bouquin, je vais en acheter 10 du même auteur.
Écoute,
je vais pas tarder à acheter.
Bienvenue au club. Avant de vous recevoir, voilà. Moi, ça fait des années que je m'intéresse à ce sujet. Je pense que j'ai vraiment lu tout ce qui était possible et imaginable. Quand j'ai pas le temps de lire, je le fais en audio. Quand j'ai pas le temps, je me fais un résumé de ChatGPT. Je m'en fous, mais je veux tout. J'ai besoin d'avoir une espèce de globalité. J'ai peur de rater quelque chose. Donc, on est dans le FOMO, un petit peu dans la fear of missing out. Et donc, je suis d'accord avec toi sur la compulsion, parce que souvent, on dit c'est obsession-compulsion. Et moi, j'arrête pas de dire dans les groupes de parole, je dis, je suis désolée, mais je n'ai pas d'obsession. Bah, si, tu veux absolument consommer. Je dis non. C'est juste que quand je m'y mets, bah, je m'arrête plus. Alors, Antonin, lorsqu'on te parle d'une thérapie sous psilocybine, déjà, est-ce que tu connais ça? Est-ce que c'est un sujet, toi aussi, que tu avais déjà exploré, puisque John et moi, on disait qu'on l'avait déjà exploré avant. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse déjà? Et est-ce que ou alors, est-ce que c'était un saut dans l'inconnu pour toi?
Bon, c'était une continuité. Ça fait 4 ans que je travaille sur la santé mentale, à travers des angles très différents, mais surtout institutionnels. Et ça fait longtemps, ça fait 10 ans maintenant que les études sur la psilocybine sont lancées à travers des pays, et j'attendais que la France s'y mette finalement.
T'as sauté sur l'occasion quand t'as entendu?
De ouf.
T'as été un des premiers?
J'ai été un des premiers, ça je sais pas, parce que j'ai pas trop les retours des médecins à ce propos, mais je suis allé aux US, en Oregon, quand ça s'est légalisé aussi.
Là-bas, c'est le seul état où c'est légal. Hein.
Ouais. Il y a le Colorado qui a légalisé depuis, je crois, à vérifier. Et en France, tout le monde attendait ça. Enfin, une bonne partie des soignants attendaient ça depuis longtemps. Et moi, je m'étais quand même positionné parce que j'ai essayé de travailler sur une approche non sensationnaliste. Du coup, quand même, réussir à aller chercher ce qui se passe dans la psyché, dans l'intime, sans être trop voyeuriste, sans être trop
spectaculaire. Ce qui est souvent le cas. Puis, on a pas mal de reportages, même sur Netflix, des choses comme ça, et puis beaucoup sur le tourisme chamanique aussi. Mmh. On en a un petit peu ras-le-bol, là, c'est cool parce qu'on est dans la médecine. Et ça fait du bien aussi, c'est plus concret.
Ouais, bah, c'est la question du soin, et l'institution, elle doit prendre en charge ces soins-là aussi, et pas mettre ça en dehors dans un truc touristique, mercantiliste, etc.
Exactement. Et toi, tu avais déjà fait un reportage en immersion dans les salles de shoot, hein, c'est ça, les premières?
Exactement. Celle qui est à côté de la Riboisière, qui est gérée par Gaïa, ça c'était il y a 2-3 ans.
Ouais.
C'était encore une autre histoire.
Et quel est ton rapport, toi, avec l'addiction? Pourquoi ce sujet?
Rien à voir. Moi, j'adore les maths à la base.
C'est vrai que moi, j'adore la drogue. C'est ça?
J'ai adoré la drogue, évidemment. Oui, bah, j'ai lutté avec les addictions aussi. Et puis, c'est. Je pense que l'addiction, où je parle beaucoup de souffrance psychique, c'est qu'on a des souffrances et qu'est-ce qu'on met en place pour pallier à ces souffrances? Et ça peut être des pathologies, ça peut être de l'addiction, ça peut être des mécanismes. Et pourquoi m'y intéresser, c'est que je me sens plus à l'aise avec des patients psychiatriques qu'avec des politiciens, je crois.
Est-ce que, en fait, en ayant des troubles, on va dire, de conduite addictive, puisque tu le dis, avec lesquels tu t'es battu, moi je pense qu'on ne s'en sépare jamais, mais est-ce que ça peut donner envie surtout de le faire? Enfin, moi, c'est mon rêve de faire ça. D'ailleurs, si tu as des plans, John, je crois. Parce que là, je ne comprends pas, j'ai envie d'aller en Suisse. Comment on fait? Ça, on va en parler aussi. Comment on fait si on veut le faire?
Pour l'instant, on attend, je crois. Ouais. C'est quand même beaucoup ça. Ça m'a donné envie de le faire. Après, je trouve que c'est aussi, ça fait beaucoup de bruit, c'est assez spectaculaire. Et je trouve que j'essaye d'apprendre d'y aller à petits pas. Et donc, les approches psychanalytiques, psychothérapeutiques, qui passent par le corps, des choses très douces, je trouve qu'elles ne sont pas non plus complètement à mettre à la poubelle, quoi.
Après, psychanalytique, quand on voit ce qui se passe avec John, le côté spectaculaire, c'est vrai que moi, j'ai plus du tout envie d'aller sur un divan depuis longtemps. Le pourquoi, disons que j'ai appris qu'on s'en foutait, quoi. C'est plutôt le comment on va s'en sortir qui est intéressant.
Ouais. J'ai essayé un peu de tout, en fait. Hein. Alors, pas parce que ça me plaisait pas, etc., parce que c'est ma nature compulsive. Donc, quand je me suis mis à sérieusement me dire, il faut que je me traite, là, il faut faire quelque chose, là, c'est plus possible. Donc ça a commencé en 2018, ça a été purement médicamenteux, parce que c'est moi qui ai rejeté l'approche psychothérapeutique, hein. Ça ne servait pas, quoi. Je suis resté aux médicaments, ça a tenu ce que ça a tenu. Voilà, puis quand j'ai réattaqué le sujet, suite à mes crises, là je me suis vraiment...
Crise de délirium tremens.
Ouais, j'ai fait un délirium tremens.
Tu peux juste nous dire en deux mots ce que c'est?
Ouais, ça faisait peut-être une semaine ou deux que j'avais rien bu du tout, en fait. Puis je sais pas pourquoi, une contrariété, des contrariétés X ou Y. J'ai bu beaucoup pendant 2 jours, puis je me suis réarrêté, en me disant, non, c'est pas possible, tu peux pas te remettre dans cet état-là. Et le surlendemain, je me suis retrouvé dans la nuit, incapable de bouger, complètement
Concrètement, ça fait vraiment, quoi Ah, c'est comme si on délirait, en fait.
Ouais, c'est, je délirais, mais je ne pouvais plus bouger.
Paralysie.
Samy qui est venu me chercher chez moi.
Parce que ça, c'est un symptôme courant de l'alcoolisme, le délirium tremens.
Ouais, c'est ça, du sevrage.
Du sevrage
sauvage alcoolique, en fait.
Ah, sauvage.
Ouais, ouais, sauvage, c'est-à-dire pas encadré par... Bah, comme ça a été le cas quand j'ai fait des sevrages, tu as un minimum de benzodiazépines ou autres contrôlés, mais tu as un minimum d'accompagnement ou de produits de substitution, en fait, quel que soit le sevrage, je pense.
Avec l'alcool, il n'y en a pas de produits de substitution.
Non, de substitution, non, mais qui viennent quand même calmer un petit peu l'organisme pour dire que ça ne bouge pas.
Non, mais s'il y avait un produit de substitution pour l'alcool, on le saurait.
Tu n'as plus la bouteille,
mais tu as ça. Je le saurais, en tout cas. Je serais au courant.
Ouais. Je me suis retrouvé au SAMU, quoi, aux urgences, pas au SAMU, pardon, aux urgences de l'hôpital qui est près de chez moi, donc Mignot, puisque j'habite à Versailles. Bon, ben là, pendant 3-4 jours, j'ai vécu, mais dans un état psychique, c'était parano, je croyais qu'on m'observait, qu'on bref, n'importe quoi. Là, je suis sorti là, je me dis, c'est vraiment plus possible.
Et là, tu t'es dit, il faut traiter.
Une semaine après, j'étais de retour aux urgences psychiatriques, et je suis parti en pleine nuit de la maison. Là. Je suis allé là-bas, parce que j'ai dit, faites quelque chose, parce que là, ça ne va plus. Je sais plus où j'en suis, la panique complète. Voilà. Et du coup, ça a attaqué avec une première cure de 7 semaines, 6-7 semaines.
Ah ouais, quand même.
D'isolement, quoi, mais même peu cure tout terrain, donc un établissement pas spécialisé dans les soins en réhabilitation côté addicto. Et puis après, il y a eu, donc ça s'est recalmé. Quoi. Là, ça s'est vraiment calmé. Et puis début d'année 2024, c'est revenu, etc. Et puis c'est là que. À force de m'intéresser au sujet, etc. Et puis, j'ai aussi été voir d'autres personnes.
Comment t'entends parler pour la première fois
de
cette solution ?
En fait, c'est une de mes psychothérapeutes, parce que je consommais...
Ouais, beaucoup de thérapeutes aussi.
Beaucoup de personnel de santé, en fait.
Je connais.
Le SSR, l'hôpital de jour...
En plus, on consomme, on les use.
Ah ben, on les use. Je ne sais pas comment ils font pour tenir, parce que...
Avec ils ont choisi ce métier-là parce qu'ils aiment ça. Hein.
Ah ouais, non, mais ça ne doit pas être facile tous les jours. Mais donc, voilà, je consommais beaucoup, je lisais beaucoup. Et puis, une de mes psychothérapeutes avec qui j'avais une relation plus familière, parce que c'est quelqu'un qui connaît bien la famille, et puis on pouvait avoir des échanges plus dans le sujet, en fait. Voilà. Une de mes psy m'a dit, bah, tiens, il y a une étude qui se lance, là j'étais en pleine crise. J'ai vu passer une étude, hop, j'ai appelé tout de suite, passé un petit test.
En fait, tous les deux, vous avez sauté sur cette occasion.
Ah bah moi, j'ai sauté dessus, là, pour le coup.
Ouais, vous êtes
ça, c'est quelque chose que j'ai jamais trop perdu, je sais être...
Moi, j'attends la première légalisation, je sauterai dessus, je ferai la troisième.
Et voilà, c'est parti comme
c'est
ça.
Génial.
Ouais, j'ai coché toutes les cases.
Ouais, c'est ça. Il y avait, quand même.
J'avais le bon profil, en fait.
C'est quoi le bon profil ?
Bonne tête des vainqueurs.
C'est quoi ?
Il fallait être alcoolique, sévère.
Avec une comorbidité
de
dépression.
Avec une grosse comorbidité dépressive. Bon, moi, j'ai rajouté une petite touche perso, j'ai anxiété.
Trouble anxieux.
J'étais très, très anxieux, en fait.
Trouble anxieux généralisé.
Quelque chose qui n'existait pas avant, mais là, j'étais devenu complètement anxieux.
Ça se manifestait comment ? Ah ouais,
ça pouvait être des crises de panique, je pouvais, ou alors fuir.
En buvant même ? Et
non,
en buvant pas ?
Même en buvant pas, en fait.
Les deux.
Je me mettais à paniquer sur n'importe quoi. En fait, je passais mon temps... Mon triangle des Bermudes, là, j'oscillais entre je bois, après je déprime parce que j'ai bu. Oui.
Et tes proches,
je vais me coucher.
À ce moment-là
les proches, ils ne comprenaient plus rien, en fait. Hein, donc, j'étais illisible.
Mais tu vivais avec eux quand même ils supportaient
je vivais
ça
avec eux. Bah, je croyais que je cachais, puis je cachais pas, que je ne sais pas ce qu'ils savaient. Ça ne doit pas être facile pour quelqu'un qui est extérieur.
Parce qu'on pense toujours que l'alcoolique, ça se voit, qu'il y en a partout.
Ouais, non,
En fait, il faut expliquer ça
aussi. Il y en avait partout,
mais c'était
bien caché.
Tu peux cacher quand même. Et puis, tu peux travailler, tu peux faire choses. Quoi.
Ah, ouais. En plus, avec le télétravail, c'était parfait. Donc,
Et en fait, moi, je voudrais savoir pourquoi, comment tu t'es dit, toi, Antonin, que ça pouvait intéresser Combini, qui est quand même un public très jeune. L'alcoolisme, aujourd'hui, c'est pas très à la mode chez les jeunes. J'ai l'impression que c'est eux, ils ont plein d'autres problèmes, mais qui n'est pas l'alcoolisme. Et les thérapies psychédéliques, ils connaissent pas encore. Comment ils ont dit oui et comment ça a été accueilli ?
Ils ont dit oui à partir de la question de la santé mentale.
Ouais.
Depuis le Covid, en fait, est devenue une vraie question. Et nous, tous les sujets santé mentale... quintuplé d'audience depuis la fin du Covid. Quoi. Psychédélique, a priori, en fait, dès qu'il y a drogue, on se dit que les jeunes s'y intéressent aussi, quand même. Mais étonnamment, pas tant que ça, par rapport à d'autres sujets, que ce soit la salle de shoot ou la psychothérapie institutionnelle, qui est une vieille manière une manière des années 50 de gérer le trouble de santé mentaux. Ça a eu une bien meilleure réception que ce sujet-là.
Moi, c'est ce que je me disais. Je me disais que c'était encore méconnu et peut-être aussi un peu, on a souvent une appréhension en se disant que c'est des drogues hallucinogènes qu'on associe au LSD, tout ça, et ces jeunes-là, ils sont pas encore là-dedans.
Je pense, c'est un peu de ça. Après, moi, mon gros argument, c'était de dire, on peut enfin mettre en image ce qui se passe à l'intérieur. Mmh. Et c'est les hallucinations qui nous racontent et qu'on a mis en image avec de l'animation. C'est que, ouais. Ça y est, on peut symboliser, cristalliser ce qui se passe en nous.
Toi, elle a tellement bien décrit.
Bah, de ouf.
Les termes, je les ai là. Non, mais c'est vraiment incroyable.
Surtout la première séance, en fait.
Ouais, en fait, il y a un truc qui dit... Féerie, c'est le premier mot qui m'est venu.
Ah oui, oui.
Et ça a commencé par les pieds, fourmillement d'énergie, électricité. Ça a gagné le centre du corps. Je me sentais de plus en plus léger. Sont apparues des images cosmiques, minérales, formes douces mais tranchantes, cristallins colorés mais très blancs. Dispersé, oui, un petit peu dispersé. Et en fait, tu disais, mais il faut qu'on prenne aussi le corps physique.
Parce que t'avais l'impression, avec moi-même,
ouais. Genre, comme si on avait pris ton âme. Ouais, on disait, eh, n'oubliez pas le corps.
Du coup, j'ai ramené le corps. J'ai dit, ouais,
bah. Attends, mais quand tu expliques ça, moi, j'ai envie d'être là. Je ne comprends pas, quoi. Et t'es passé du mode rewind à marche avant, un état que je n'avais jamais connu. Voilà. C'est-à-dire qu'on est là et on vit le truc. J'ai vécu une expérience de psychédélique sous ayahuasca et je comprends tout ce que tu dis.
Ouais, c'est ça en fait. Moi, il y a eu la première séance que ça s'articulait en deux séances, en fait, deux
fois 6 heures. Et c'est des grosses doses. Il faut savoir que c'est. Les gens pensent que c'est compris, des micro-doses.
25 mg de produits. On n'est pas de champignons.
Voilà.
De produits extraits. Ouais, c'est costaud.
On n'est pas dans le micro-dosing qui est encore autre chose. Je pense que tu vas faire un documentaire. C'est ça mon soupe. J'ai rencontré plein de gens qui avaient créé leur boîte aux Pays-Bas.
Le microdosing, il y a beaucoup moins d'infos scientifiques là-dessus. Il y a beaucoup moins d'études.
Moi, j'y crois beaucoup moins. Moi, je crois qu'il faut une grosse dose pour passer à ce cap-là d'éveil. Donc, vas-y.
Oui, et puis, peut-être juste là-dessus, je pense qu'il y a aussi la question de est-ce qu'on veut se médicamenter une fois dans notre vie ou dans l'année ou est-ce qu'on veut se médicamenter tout le temps,
quoi. Ouais.
Moi, j'ai essayé le microdosing et franchement, même c'est assez nauséeux. Ça me donne la nausée. J'aime pas trop ces truffes-là.
Ah oui. Oui, donc il y avait deux séances. Donc à la première, pour moi, c'était complètement nouveau. Donc je me suis assez vite aperçu au bout d'une demi-heure que je devais pas être dans la dose placebo, parce que ça, c'est le côté cruel.
Il y en a qui ont
doublement cruel de cette expérience, c'est que au sens médical du terme, c'est que il y a du placebo. Donc il y avait 10 personnes sur 30 qui étaient en placebo. Voilà. Et puis, en plus, contrairement à un vrai placebo, là, le psychédélique, normalement, tu t'en aperçois, en fait. Tu peux pas te dire, en sortant de la séance placebo, j'ai été sous psychédélique. Mmh. Je sais pas. Voilà. En tout cas, moi, je connaissais pas les psychédéliques. Assez vite, waouh.
Tu le savais.
Ça a décollé. J'ai vite compris que j'étais dedans, quoi. Du coup, ça m'a libéré parce que j'avais une petite tension par rapport à ce sujet-là.
T'as gagné au loto, quoi. Tu faisais partie des gagnants.
Ouais, je me suis dit, bon, ça y est, c'est parti. Et puis, quand c'est parti, c'est parti. Et là, c'est vraiment parti, en fait.
Ça te paraît long ou court?
Alors, c'est marrant. La deuxième séance, j'ai perdu complètement le sens du temps, en fait. Donc,
tu peux raconter juste la séance, comment ça se passe, pour ceux qui n'ont pas vu. Donc, ce 26 minutes sur Combini, extraordinaire. Non, mais il faut le voir. C'est sur l'alcoolisme et la thérapie sous psilocybine.
Ouais, bah t'es installé dans ta chambre. Là, c'est une chambre d'hôpital en fait, en l'occurrence. Alors c'est pas super cosy, mais il y a une petite plante qui est devenue mon amie. Voilà, que j'appelais Psilo, petit bonsaï qui est devenu partie de l'environnement. Il y avait des chats aussi qui se baladaient dehors. Un joli centre, le Gros du Roi, pour de la SSR. Et tu prends le produit. Chez moi, ça a fait effet au bout d'une demi-heure, de façon assez subtile. Comme je savais pas au début si j'étais placebo ou pas, j'étais très... je bougeais pas, je surveillais tout, j'essayais de voir le truc venir. Et puis, d'un coup, c'est parti. J'aime bien, c'est bon. On y est. Et puis après, au début, toutes les demi-heures pendant 2 heures et ensuite toutes les heures, ils t'interrompent pour... accompagné par, là en l'occurrence c'était la doctoresse
Amandine
et puis une psychologue qui était en charge d'études, donc ils sont là à côté, c'est assez rassurant d'ailleurs. Bon, j'ai appris qu'il y avait des gens qui avaient fait des bad trips ou un peu d'angoisse ou voilà.
Le bad trip, c'est souvent aussi des expériences qu'ils doivent connaître pour traverser quelque chose aussi. C'est pas forcément juste un bad trip.
Oui, c'est pas nécessairement, oui, tout à fait, ça fait partie.
C'est la différence trucs, avec le bad trip, avec un pétard ou... Ou un acide,
c'est parce que quelque chose est remonté. Et donc, toutes les demi-heures, ce que j'appelais une font redescendre, en fait. C'est assez marrant. Il y a une voix qui vient d'un peu lointain, puis tout à coup qui rentre, et puis voilà, tu redescends, là, tu te dis, ah, tiens, alors au début, c'est un peu bizarre, puis après, c'était presque un jeu. Ben, je me parlais à moi-même beaucoup, en fait.
Tu te parlais.
Bon, ben, là, j'y vais, là. À un moment, je me suis même dit, c'était vraiment très rigolo. Je me suis dit, bon, quoi, je me suis dit à moi-même et à toutes les parties de mon corps, mes idées, tout ça qui était en bordel là-haut. Je dis, bon, je descends, les gars, hein, c'est... mais juste pour 5 minutes, là, il y a les 3 questions, puis je remonte tout de suite. Là, vous me gardez la place au chaud, surtout, wow. Vous n'en allez pas, quoi. Donc, c'était vraiment dispersé, en fait. Hein. C'est très marrant. C'était la première fois que j'ai été dissocié comme ça. Mais c'est plus que dissocié, là. C'est pas corps-esprit, là. C'est
comment, dissocié en tous les sens. Comment, tu me disais juste avant que tu étais cartésien, comment rester cartésien quand tu vois bien qu'on n'est pas juste un corps ?
Ah ben, je sais pas.
En fait, très résistant à l'éveil. T'es pas résistant qu'à l'alcoolisme et à la dépression.
Non, mais je sais pas si c'est cartésien
c'est
ou quoi,
preuve.
Mais j'essaye de comprendre un petit peu les mécanismes. Après, j'ai une image assez simple. Tu prends ta feuille, là, t'as écrit des choses, il y a beaucoup de sens dans ce que t'as écrit, mais c'est que des lettres, voilà, sur un bout de papier fait avec de l'encre, voilà. Donc, c'est pas le fait de comprendre un dictionnaire ou des bouts de papier ou de savoir imprimer un livre. Mm-hmm. Si, ça a beaucoup aidé à l'époque de Gutenberg, mais voilà. Au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est pas ça qui fait le texte que t'as écrit, en fait. Voilà. Ben, moi, c'est pareil. Je me dis qu'il y a des mécanismes psycho-machins, hormonaux, tout ce que tu veux, qui fonctionnent. Hein. La physique derrière, la chimie. Mais derrière, on écrit.
C'est ça que tu penses.
C'est l'hallucination. C'est tout ce qui est en train de, sur cette base de livres écrits, quoi, de livres que tu peux écrire. Là, t'as l'hallucination, et là, tu mélanges tout. Et j'ai lu des trucs assez intéressants où, justement, les filtres que j'avais bien établis, tous les filtres inconscients négatifs, etc., ils viennent dans le... Alors, c'est une des explications, ils viennent en coupure entre ton tronc cérébral, tes émotions, quoi, ce que tu vis, pardon, pas ce que tu perçois, voilà, entre tes perceptions. Tu as le filtre, puis tu as tes émotions et puis ton
autre
frontal, quoi,
ouais, mental.
La partie qui est censée réfléchir pour toi, quoi, avec l'ego, l'inconscient, le conscient, mais le mental. Voilà. Il y a l'inconscient et le conscient dedans. Et en fait, à force, ce filtre-là, il est devenu non pas un filtre qui vient, mais qui transforme. Avant même d'avoir une perception, tu sais déjà comment tu vas sentir les choses, en fait.
D'accord.
Donc, tu vois les choses différemment, mais c'est même filtré avant même qu'elles arrivent à ton conscient.
Ouais,
t'as déformé ta tête. Et ce que j'ai lu, c'est que les psychédéliques, ça vient foutre un gros bazar là-dedans.
Ça reconnecte
tout.
Ça fout le feu au filtre.
Donc, tes milliards de neurones, de petites molécules d'hormones qui se baladent dans tous les sens.
Repousse neuronale, j'ai lu. Hein.
Ah ouais, bah voilà.
Complètement fou, ça.
Tu peux reconnecter différemment. Il n'y a pas que les neurones, quoi. Il y a tous les neurotransmetteurs. Mm-hmm. C'est ça qui fait l'objet de... différentes drogues psychoactives.
Pour revenir à l'éveil, c'est quand même le psychédélique, c'est étymologiquement, ça veut dire c'est une substance qui révèle l'âme.
Ouais.
Et en plus, on a la drogue entéogène qui est la drogue qui crée Dieu en toi.
Ouais.
C'est quand même la DMT, la mescaline, la psilocybine, le LSD.
Ouais.
Il en manque une, non ? Il y en a 4 ou 5 ?
Non, ça doit être ça.
Et ben, ouais. C'est ça. En fait, moi. Toi, tu es en train de dire, et je te crois, et moi, je n'ai pas la réponse,
ouais.
Tu es en train de dire que ça crée en toi des choses biologiques, chimiques et tout ça qui vont réparer des choses.
Ouais.
Et moi, je pense que ces drogues-là, ces psychédéliques, en fait, ils créent un éveil qui, lui, va te guérir.
Ah oui, mais ça crée un éveil. Donc, ça veut dire que le...
Un éveil à quoi, si tu ne crois pas en quelque chose ?
Un éveil à du spirituel, mais le spirituel au sens,
je vais t'y
plutôt
amener,
que de
hein.
nourrir mon corps... Non, mais je nourris mon esprit, en fait.
Ah ouais, mais l'esprit, voilà. C'est quoi ?
Bah, aujourd'hui, l'esprit, c'est... Voilà, j'ai plein de sujets d'intérêt, il y a plein de trucs qui me passionnent,
ça, c'est le mental.
Là-dedans.
C'est le mental et l'ego qui veut chercher des sujets qui passionnent.
Je sais pas, en fait. Je sais pas si c'est le mental, ouais.
C'est le mental.
Ouais. Bah, moi, mental en fait, je nourris ma tête.
Je pense que c'est quand même un enjeu assez central pour la renaissance psychédélique, parce que dans les années 60-70... Une des choses qui a fait que ça a vrillé, c'était aussi la sur-spiritualisation de la pratique.
Oui.
Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui essaient de... On a cette tendance à vouloir spiritualiser, à vouloir trouver Dieu là-dedans, mais de se dire, bon, pour l'instant, en fait, on ne sait pas trop comment ça marche. Mmh. Il y a un processus de symbolisation de... Peut-être qu'en fait, je me vois sortir de mon corps, mais c'est que du symbole, c'est une hallucination. Par contre, ce qu'on est certain, c'est que ça permet, après coup... de clarifier nos processus émotionnels. Ça permet aussi la repousse neuronale pour créer des nouveaux chemins, de nouvelles habitudes.
Donc, c'est très concret aussi.
Voilà, pour l'instant, j'ai l'impression que beaucoup de médecins essayent d'avoir ce truc très cartésien.
Vous avez raison, pour pouvoir le légaliser, c'est comme ça qu'il faut faire.
Exactement.
Mais ça n'empêche pas, moi, de penser
bien
ce que
sûr.
Je pense.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un des chercheurs de Baltimore, de l'université, qui a été accusé de sur-spiritualisme, d'avoir essayé de pousser les études pour prouver l'existence de Dieu.
Mmh.
C'est un peu une des dérives de ces... Mmh. de ces produits hallucinogènes. Fait que ça, je trouve que c'est un des espaces un peu glissants de,
ces substances. C'est aussi l'endroit où les gens buguent un peu sur les AA, les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes qui ont été créés dans les années 30 et donc avec cette envie qui venait de Carl Gustav Jung, donc d'un éveil spirituel pour pouvoir s'en sortir. Ces mecs-là ont souvent fait des expériences sous LSD et ont eu cet éveil, c'est vrai qu'ils ont créé un programme pour qu'on s'éveille. Et en fait, là, au lieu de 20 ans de programme, on peut le faire en 6 heures. Donc, moi, je pense que c'est ça qui guérit. Mais encore une fois, les deux marchent. Et de toute façon, ce qui est important, c'est que ça marche. Voilà, en fait, c'est ça. On s'en fout du pourquoi.
Ouais. Et puis, peut-être, ce qu'on pourrait dire et qui se rapproche un peu de la spiritualité, c'est la question de l'élan vital. Que si, quand tu es en plein dans ton addiction et que tu te refermes, tu es en train de mourir. Et quand tu te retrouves l'élan vers la vie, le désir, ben. Tu te réenclenches avec un courant vital qui nous traverse tous, qu'on peut dire qui est Dieu ou qui est juste...
En fait, là où va ta pensée, va ton énergie, et l'alcoolique ou le dépendant, sa pensée va vers la bouteille, va vers l'objet. Mm-hmm. Quand tu vis ce genre de choses, ta pensée, elle se retourne vers des fleurs, vers ta famille, vers ton fils. Enfin, finalement, l'énergie, elle va vers la vie, qu'avant, on allait vers la mort.
Tout à fait.
Alors toi, lors du tournage, tu as côtoyé à la fois des chercheurs et des patients. C'est quoi pour toi le moment le plus marquant justement de cette expérience, cette nouvelle frontière thérapeutique? Qu'est-ce qui a été pour toi un moment où tu t'es dit, tiens, je tiens vraiment quelque chose, quoi, il se passe un truc?
Je pense que c'était peut-être sur la fin de la relation avec John. Était très agréable parce que j'ai l'impression qu'on... très friand de la paire aidance, du communautarisme, et du coup on se projette chez l'autre et on comprend des choses en soi grâce à l'autre, et de le voir avec son sac à la sortie de ces 6 semaines et d'être une personne changée. Enfin,
j'ai pleuré, moi.
Ouais, c'était sympa, ouais. J'ai beaucoup aimé ce reportage.
J'ai pleuré.
Ça me fait du bien, c'est... Ouais.
Là, j'avais l'impression de témoigner il y a eu un processus de transformation et qui s'est ancré et on voit que ça respire plus, que c'est adouci. Mmh. Enfin, de témoigner en fait de ce processus un peu mortifère à aller vers quelque chose de vital, c'est quand même assez marquant.
En tout cas, moi aussi, je les conseille à tout le monde. J'imagine que tu as eu des milliers de vues après que tu m'en aies parlé. En tout cas, je l'envoie à tout le monde parce que je pense qu'aujourd'hui, la psilocybine peut aider non pas que l'alcoolisme, mais beaucoup de pensées limitantes et qui nous enferment, quoi qu'il arrive. Ouais. De toute façon, c'est cette rigidité. Hein.
Bien sûr.
Retrouver de la souplesse neuronale et cognitive.
En fait, tu découvres des choses que tu n'imaginais pas, alors qu'ils soient en toi, à l'extérieur, peu importe, mais tu découvres tout un champ qui était totalement inaccessible, auquel tu n'avais jamais accédé, en fait.
Je l'ai tout à fait vécu avec l'ayahuasca.
Ça met les bonnes étoiles avec mon besoin d'intensité, là, en fait.
Ah ouais.
Pour ce qui est d'être intense, c'était intense, en fait.
Et justement, j'aimerais poser cette question, parce que je l'ai vécu. Bon, c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort, l'ayahuasca, c'est flippant, mais qu'est-ce qui reste? Je ne veux pas parler de l'alcoolisme du tout, mais je veux dire justement de ces choses féeriques que j'ai vécu aussi, des révélations. Moi, j'ai vu Dieu, j'ai vu Marie, j'ai tout vu. Et tout le monde me dit, mais c'est comme un rêve et tout. Je dis, non, pas du tout, parce qu'en fait, les rêves, moi, je les oublie. Quand je vais les raconter, ils disparaissent. Là, j'ai tout en moi. Mais le sens, lui, s'effrite. Voilà, ça s'étiole un peu. Toi, par rapport aux visions que tu as eues, qu'est-ce qui reste?
C'est pareil, en fait, ça a contribué. Alors, je vais me reprendre ma casquette d'ingénieur. En fait, ça a fait comme un catalyseur. C'est très réducteur, mais il y avait plein de choses en fait que j'avais lu, que j'avais vécu bien sûr, que j'avais lu, mes tentatives pour essayer de m'en sortir, mes échecs.
En parlant de tentatives, est-ce que tu avais fait des tentatives de suicide?
T'as jamais voulu
mourir?
Non, il y a des moments, je me disais si ça s'arrêtait maintenant, ça s'arrêterait maintenant.
J'existe plus,
c'est pas grave, si tant pis.
On a tous ça, les dépendants.
Une espèce
d'égoïsme quelque part, après moi le déluge.
Ah oui, c'est exactement ça.
Je vais me laisser
crever. Ouais, laissez-moi crever. Ouais.
Mais on crève pas.
Il
n'y
a rien à faire.
On reste là quand même. On fait chier tout le monde jusqu'au bout. Je suis encore repartée.
Donc, ça y est, j'ai encore perdu mon fil.
C'est le problème de l'intervieweuse, ça. Un problème. Elle a un gros problème.
Non, c'est moi.
Le catalyseur.
Oui, le catalyseur. Donc, voilà, ça a fait que la magie opère. Et là, je suis plongé dans quelque chose de complètement différent. je pense que ça m'a vraiment fait faire un... Je parle pas de côté, c'est peut-être un peu trop modeste, quoi. Ça m'a mis ailleurs, c'est... Voilà, j'ai... Et du coup, je suis resté ailleurs. Tout en sachant me réintégrer dans ma famille, dans mon travail, dans la société, etc. Petit à petit, en fait, restaurer quelque chose, en fait, retoucher terre. Mais j'ai l'impression d'avoir, d'être durablement parti ailleurs.
Et est-ce que, justement, quand tu dis ça, ça veut dire que pour toi, il n'y aurait pas à réitérer l'expérience, forcément?
Non, justement. En fait, je ne recherche pas. D'ailleurs, ça m'a surpris parce qu'au début, je me disais... Ouais. Où on me disait non mais ça tu vas replonger super t'es...
donc c'est une belle preuve que ce ne sont pas des ce ne sont pas des substances addictogènes c'est une belle preuve
non c'est pas addictogène du tout
disons-le ça ne rend pas la substance ne rend pas addict
il n'y a pas eu de ça a pas généré de besoin comme j'en avais pour l'alcool à mon niveau quoi et pas d'envie non plus en fait je me suis dit tiens faut que j'en vive ça c'était trop génial quoi
moi non plus.
Pense qu'il y a même une partie de moi qui se dit non mais c'est pas la peine t'as... Tu le revivras pas pareil, quoi.
En fait, voilà. J'allais te dire, moi, je veux pas le refaire parce que j'ai eu la chance de vivre une expérience incroyable.
T'as fait ta première fois, reste dessus.
Je me dis, j'ai eu trop... on me l'a donné, c'est un cadeau du ciel. La prochaine, si tu le fais, ça va pas être aussi bien. Et est-ce qu'il y a quand même des pratiques et des outils que tu mets en place au quotidien pour préserver tout ça? Ou genre, par exemple, j'ai vu qu'il y avait une psychomotricienne, t'as appris à méditer.
J'ai beaucoup de, il y a beaucoup de travail qu'on a pu faire, que j'ai pu faire dans les différents cycles là, SSR, cure et autres ou hôpital de jour beaucoup de travail autour des émotions donc je sais pas si je les régule mieux mais en tout cas je les tu vois typiquement aujourd'hui quand je commence à me chauffer à m'énerver ou quand il y a un truc qui commence à pointer je le castre pas hein, mais je suis plus sensible mais là t'es en train de te... pourquoi t'as parlé comme ça là. Voilà, ça m'empêche pas de continuer à vivre, mais il y a une partie de moi, il y a une disjonction. Pour le coup, la dissociation, elle s'est vraiment faite.
Est-ce que ça serait pas juste la conscience? Pour moi, c'est une prise de conscience, donc tu te vois faire, en fait.
C'est ça
la conscience.
Ouais.
Donc pour moi, c'est pas une dissociation, c'est la conscience au-dessus du jeu.
Oui, c'est ça. En fait, je suis plus en réseau, quoi.
Mais toi, tu me vois faire et je fais en même temps. Horizontal. Moi, je vois ça vertical. Toi, tu vois deux, moi, je vois un.
C'est bien, je suis plus intégré, en fait.
Je pense que c'est l'inverse, plutôt que la dissociation. Pour moi, je suis totalement unifié, en fait.
Aligné. Oui.
Mais ça doit être fou de regarder ça et de te dire, mais je veux en être, quoi, non? Est-ce que ton objectif, c'était quand même de rendre la molécule connue du grand public et de participer, d'encourager sa légalisation? C'est surtout ça, ce reportage?
C'est sur de la pédagogie. De base, c'est de comprendre le processus, de faire de la pédagogie, de démocratiser. Après, c'est aussi de... Je pense qu'il y a un enjeu qui est assez fort. Il n'y a aucune addiction possible, mais il y a beaucoup de confusion possible avec ces substances-là. Et ça dépend vraiment du cadre de la prise. Et la John a eu quand même un espace assez idéal avec des soignants très professionnels. Et c'était un peu de l'orfèvrerie, quoi.
Complètement.
Et on le sent dans sa manière de se positionner aujourd'hui. Il est très aligné, tout est bien replacé, alors qu'une prise au mauvais endroit, dans le métro parisien à 1h du matin, il y a des chances que ça ne crée pas les mêmes effets. C'est aussi c'est démocratiser l'usage thérapeutique, mais c'est aussi un peu conscientiser des potentiels dangers qu'il y a autour, etc.
Mais d'ailleurs, les séances, il y avait des... quand tu démarres la séance, je n'ai pas dit, mais avec des intentions. Tu formalises des intentions. Et pendant la séance, à un moment, je me suis, après m'être un petit peu régalé de tout ce qui m'arrivait, une ouverture à ce monde un peu psychédélique, je me suis dit, il faut que tu bosses un peu sur tes intentions, et j'ai bossé sur mes intentions pendant la séance, en fait.
C'était quoi tes intentions?
Je me souviens plus très bien, mais il y avait de l'ouverture à l'autre. En fait, j'ai fait exactement le contraire, c'est-à-dire que je me suis ouvert à moi-même. Donc, je ne me connaissais pas, j'étais enfermé au fond de moi-même. L'autre, c'est venu après. Mais c'est ça que j'avais formalisé comme intention, et qui était un point de départ, mais qui, en fait, m'a reflété sur... déjà mon propre décloisonnement intérieur, en fait. Voilà. Donc, il y a toutes les frontières, tous les murs qui ont explosé, quoi. Mais voilà, il y a cette logique d'intention, de travail, en fait. C'est un vrai boulot thérapeutique, mais qui est aidé par la psilocybine, en l'occurrence.
Et quand tu sors de là, après 3 semaines, après tout ce que tu as fait là-bas, tu sors, tu n'as déjà pas envie de boire, enfin, t'es déjà bien.
Ouais.
Et là, parce que là, ça fait combien de temps que tu as fait ce truc?
Ça fait C'était début avril de l'année dernière, en fait.
Ça va faire un an.
Ça va faire un an, oui.
Et tu disais dans le reportage, donc là, c'était à 6 mois, que tu n'en avais plus ni l'envie, ni le besoin.
Oui, c'est ça.
Et
ouais.
Ça continue comme ça.
Ah oui, complètement.
Wow.
Ouais,
mais tu disais que tu n'étais pas dans l'abstinence. Ça veut dire que
non, donc,
tu pourrais boire, tu penses?
Non, non. Ah non, non, non.
C'est une question.
Je me le refuse, en fait. Mais dans l'abstinence, c'est-à-dire que je disais le... Pour moi, abstinence, c'est un,
oui,
un acte
c'est
volontaire.
Oui, c'est péjoratif. Oui, puis même, il y a un côté privation.
Je me prive d'eux, quoi. Alors, mais volontairement. Comment? Là, je n'ai pas besoin de me priver de quelque chose dont je n'en ai pas besoin et dont je n'ai pas envie, en fait.
C'est ce que promettent les alcooliques anonymes aussi, c'est pas de ne pas consommer, c'est de ne plus avoir ni l'envie ni le besoin.
C'est ça,
parce
ouais,
que si c'est pour vivre avec l'envie de consommer toute ta vie, je préfère
craving,
boire, moi.
En craving.
Complètement, craving permanent, plutôt mourir.
C'est trop douloureux.
Quel potentiel, déjà, Antonin, toi tu sais un petit peu quelles sont encore les zones d'ombre sur ce produit, qu'est-ce qui empêche la France par rapport au Canada ou comme on disait certains pays ou la Suisse, ou qu'est-ce qui empêche la France, enfin, qu'est-ce qui la rend si lente et de quoi on a peur, quelles sont les zones d'ombre avant de parler des potentiels des psychédéliques, on va parler de ce qui fait peur.
Très bonne question, je me la pose aussi. Je pense que la France, on a quand même un rapport aux drogues qui est très criminalisant et très stigmatisant. D'où on a du mal à légaliser la weed médicinale. On a du mal même à faire des tests dessus. On a 10 ans de retard sur les tests sur les psychédéliques. On a une approche hyper...
On a moins de mal à légaliser les drogues qui causent le plus de morts.
En plus. On a une approche très sécuritaire, assez problématique. Sur les salles de shoot, pareil, on a 2 salles de shoot dans le pays, alors que les pays en Europe en ont 5, 10, 15, 20. Enfin, on est très en retard là-dessus, mais parce qu'on veut punir plus que soigner. Hein, globalement, ça se résume à ça. La peur, je me dis que peut-être il y a ce truc spirituel, de peur que ça... On est un pays très laïcard, et donc les Américains, ils sont contents de prouver l'existence de Dieu. Peut-être que les Français, ils ont un peu de réticence à ce niveau-là.
Tu crois que c'est ça? Tu crois
je
que
sais
c'est
pas,
le côté
c'est
trop
ça.
Spirituel?
Je ne sais pas si ça rentre en compte, il y a peut-être ça. Il y a, après, je pense que les démarches scientifiques pour créer des études, avoir les accès, avoir les autorisations, c'est peut-être plus long en France parce qu'il y a plus de processus à valider.
Mais pourquoi c'est encore vu parce qu'aujourd'hui, moi, quand j'en parle, il y a des gens qui sont très, très ouverts d'esprit, qui sont dans une tranche d'âge, enfin voilà, des gens qui pourraient vraiment avoir accès à tout ça. On pense vraiment encore que la kétamine, la mescaline, la psilocybine, le LSD sont des drogues dures, addictogènes, dont on meurt alors qu'il n'y a pas de dose létale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mourir de ces drogues.
Non, théoriquement, non. En tout cas, pas direct. Après, le comportement, il peut dérailler, j'imagine, mais comme avec tout.
Il peut y avoir 2 effets secondaires, comme l'ETS, qui peuvent suite... suite à la consommation et les crises cardiaques, ça peut arriver, mais qui peuvent être évitées avec un bon checking des patients, quoi, un bon encadrement et vérifier l'antécédent des patients avant.
Ça fait peur déjà quand même, TS.
Tout ça fait peur déjà.
Les crises cardiaques.
Oui, après, une opération à cœur ouvert, il peut y avoir des problèmes aussi. Enfin, j'ai l'impression que les psychédéliques, c'est ce niveau-là, quoi. C'est qu'on accède à l'inconscient de manière très profonde, très rapide et on va avoir des.
Je pense que oui, ça.
C'est une très bonne analogie.
Tout, hein.
Ouais, après, on change le comportement d'une personne de manière radicalement différente.
Enfin, j'imagine que oui, tu dois pouvoir. Quelqu'un qui est sous psychédélique, tu dois pouvoir faire quelque chose avec lui, quoi. Mais bon. C'est comme tout, hein, il y a toujours un côté si mal utilisé, il y a toujours un côté
complètement. Et c'est pour ça que là, on parle vraiment des thérapies assistées par psychédéliques qu'on appelle les PAP.
C'est ça. Ouais.
Dont j'avais parlé dans l'épisode avec Olivier Chambon. Je pense que même il a été radié de l'ordre des médecins lui en France. Hein. Voilà, c'est comme ça. Moi aujourd'hui, si j'ai envie de faire ça, je cherche partout sauf en France, sauf si j'arrive à être dans l'étude clinique. Mais il faut être résistant à plein de choses. Moi, je m'en suis sortie, quoi, quand même. Donc je vais laisser la place à d'autres gens, mais je parle plus pour la dépression, parce que moi, à la limite, je trouve qu'il y a plein de solutions aussi pour l'addiction, mais la dépression qui ne trouve pas de solution, j'en connais beaucoup de gens comme ça, et qui ont tout essayé, je sais pas ce que j'ai, ça va pas, ça va pas. Et moi, j'étais comme ça. Et j'avoue que l'éveil, quelque part, qui a d'abord commencé avec les groupes, et le programme des NA, mais aussi l'ayahuasca.
Ouais, non, mais c'est un cocktail de, sans mauvais genou, mais c'est un cocktail de tout ça, en fait, qui fait que, que ça fonctionne.
Mais c'est exactement la même chose pour le fait que ça fonctionne, le fait d'être addict. C'est un cocktail multifactoriel. Ah ouais, c'est une personne, un moment, une substance, et un lieu.
C'est pas le cas du reportage, mais souvent dans les médias où la pensée globale, c'est une pensée qui aime bien réduire à deux facteurs. Ça fait déjà beaucoup, en fait. Il vaut mieux en avoir un seul et puis ça y est, c'est bon, quoi. Bon, bah là, c'est drogue. Oui, c'est interdit. C'est presque néordologique, hein. Alors, c'est quoi de la psilocybine? Ah, c'est stupéfiant, donc c'est pas bien. Donc on crie dessus, quoi.
Et les autres patients qui n'ont pas eu de placebo, ils en sont où, eux?
Ils en sont... alors, qui a eu de placebo, qui ne l'a pas eu, on ne sait pas encore, parce que c'était en aveugle, et l'aveugle n'a pas encore été levé. Et il y a eu quelques effets secondaires.
Ah oui?
Donc ça, pareil, c'est encore sous secret médical ou de recherche.
C'est normal en même temps.
Et selon, c'est mentionné dans le reportage, mais selon le professeur Luquin, c'est pas lié à la psilocybine. Et ils ne sont pas tous, ils n'ont pas tous eu le même parcours que John, quoi. Il y en a qui ont repris la consommation d'alcool derrière.
Il y en a qui ont réduit.
Ça, je sais pas. Je pense qu'ils ont. On aura les résultats exacts avril ou mai, je crois. Et après, là, c'est une étude sur 30 personnes. Et,
bah, écoute, l'épisode sortira sûrement
à ce moment-là.
En mars, avril. Ouais, donc c'est cool, on aura les résultats bientôt après. Et puis j'ai écouté Lucie Berkovitch, c'est ça?
C'est celle qui fait l'étude à Sainte-Anne.
Ouais, à Sainte-Anne. Et elle disait quand même que, sans parler de sobriété, elle parlait quand même de réduction de 4 à 10 fois les doses, quand même. Ouais. Et qu'il y avait aussi, alors ça m'a plu, ça marche aussi sur la cigarette.
Ah oui, ouais.
Ouais, c'est pas étonnant.
Ça, c'est pour moi, c'est bien parce que je suis très résistante.
Ouais.
J'arrête tout le temps, mais je reprends tout le temps. Mais j'arrête, t'arrêtes, c'est ça qui est bien. Moi, j'arrête pas d'arrêter, j'arrête pas de reprendre.
Ouais. J'avais posé la question au professeur Luquin, pourquoi est-ce que la France était si en retard? Et pour elle, on n'était pas si en retard que ça. Justement, ça, c'était intéressant. C'est d'avoir. Bah, que les Américains ont lancé il y a 10 ans, la Suisse, bon, c'est aujourd'hui légal chez eux, l'Australie aussi, mais. Là, ça y est, les études se lancent et on va voir si elles sont confirmées, des panels de 200, 300 patients d'ici un an, deux ans. Enfin, ils sont en train de rattraper leur retard.
Il y a tellement à faire parce qu'il y a tellement de substances qui guérissent et qu'il faut faire tellement d'études, voir tous les dosages, voir toutes les comorbidités, toutes les pathologies. Je pense que ça va prendre une centaine d'années. Pour dire qu'un anesthésiant pour cheval va te guérir, comment faire rentrer ça dans la tête? Donc là, moi, j'ai carrément pas envie d'essayer la kétamine.
Après, la kétamine.
Non, mais c'est vrai, j'ai du mal à y croire.
Elle est déjà légale dans les hôpitaux psychiatriques.
Oui, pour le coup, mais... Okay. Mais ça fait peur, justement.
Bah, et sans thérapie, il le donne aux patients.
Oui, mais ça fait peur. On a l'impression que c'est pour les assommer. Ça fait un peu peur.
C'est vrai que c'est un peu la visibilité qu'on peut avoir, la vision qu'on peut avoir.
Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui mettent la MDMA aussi là-dedans, comme si c'était une drogue entéogène aussi. Est-ce qu'il y a des drogues qui ouvrent la conscience, des drogues qui la rétrécissent? Alors moi, je connais bien la cocaïne, elle rétrécit.
Mais on est trop loin d'une compréhension sociale de ça, en fait.
Oui.
Tu prends, toujours ma compulsion, là, je m'étais fait tous les podcasts, c'est un podcast de la radio-télé suisse.
Ah, j'adore.
Médecine intégrative.
J'adore.
Et complémentaires. Je les ai tous faits, c'était génial. Et tu vois, donc il y en a un qui m'avait marqué sur la prière, en fait. Donc en Suisse, il y a une tradition de dire la prière pour quelqu'un qui est malade, etc. Et c'était des médecins. Ce qui est intéressant dans ce podcast, c'est à la fois de la médecine intégrative complémentaire, donc on pourrait dire alternative, et donner, quoi. C'est des gens qui ont une expérience médicale, quoi, qui sont médecins.
Mais la prière fait partie des programmes aussi des alcooliques anonymes.
Voilà.
Mais ça fait un effet placebo aussi.
Quand je dis social,
ça soulage de s'en remettre à quelqu'un.
C'est ancré dans leur façon de voir les choses. Donc, naturellement, ils vont aller plus vers une explication. Quoi, une explication? Ils vont être plus réceptifs à un traitement qui ouvre, qui va vers autre chose. Parce que
déjà,
il y a des choses ancrées. Chez nous, la prière,
pas assez avancé sur le sujet de la conscience, déjà.
Ah oui, oui.
Donc, ça aussi qu'il va falloir ouvrir, parce que vu que ça vient toucher à la conscience, il faut qu'on comprenne ce que c'est que la conscience. Les gens ont du mal. Conscience, ça vient à la base aussi, étymologiquement, c'est un savoir qui accompagne un savoir. Donc, c'est savoir avec, quoi. Et donc, ça veut dire tu sais que tu sais.
Ouais.
Et moi, c'est pour ça que je te dis, je le vois en vertical. C'est comme ça, tu sais que tu sais. Et les gens pensent que c'est l'inconscient, par exemple. Justement, c'est ce qui est au-dessus de l'inconscient.
Oui, ouais. Mais c'est à côté.
Ah oui, ça y est, c'est reparti pour l'horizontal.
Moi, tu vois, je me vois comme un, comme le mycélium d'un champignon. Tu sais, le
oui,
truc,
oui,
le
c'est
réseau.
Vrai. Ah, j'adore. Tu l'as vu le documentaire sur Netflix sur les champignons?
Non, non,
ah, tu vas adorer.
Non. Le réseau qui, voilà, qui vit.
Alors, ce voyage, il t'a permis de te confronter à tes démons aussi. Donc, c'est pas que la féerie non plus. T'as quand même vu des choses, des traumas. Tu t'es rendu compte que t'avais souffert de quelque chose en particulier.
Ouais, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui sont remontées, en fait. Je m'étais pas rendu compte que ça faisait partie. Je ne veux pas en parler dans le détail parce que, voilà, ça touche à des personnes proches. Mais il y a des choses qui sont remontées. Je me dis, ah oui, c'est finalement ça me coinçait, en fait. J'avais cette anxiété qui était née là depuis 2014, je la vis difficile et j'ai mis un doigt dessus. Mais dans l'acceptation en fait, c'est la deuxième séance en fait. La deuxième séance c'était de l'acceptation. Donc je suis pas reparti balle neuve. Donc c'est mon passé. Je vais pas revenir dessus. Je vais arrêter de regretter ou quoi que ce soit. Je l'ai accepté. Voilà, t'es comme ça. T'as été alcoolique pendant un certain temps. T'as l'anxiété qui est arrivée à cause de ça. Là, une peur panique de tout et n'importe quoi. Et toujours le scénario catastrophe qui devient l'esprit. Tu bétonnes dessus. Ok, t'as été comme ça. C'est très bien. Ça t'a préservé probablement à certains moments. L'alcool, ça m'a bien aidé à
oui,
servir
parce
à d'autres.
Que tu dis, tu rencontres la partie de toi qui boit.
Oui, je parle et puis je la fais monter dans mon
parce
univers.
Parce que tu te dis, en fait elle était là pour me protéger. Cette
partie-là. Elle m'a protégé de choses. Elle m'a aidé. Elle m'a facilité la vie dans certaines rencontres.
En fait, on crée des petits personnages. Tu sais ça, c'est l'ego crée une multitude de personnages.
Ah ouais,
c'est comme des petits boucliers comme ça. Donc on en a tous une cinquantaine. Hein. Donc il y a celui qui se met en colère, celui qui boit, celui qui machin.
Ouais.
Et hop, on a appris que quand on sortait ce bouclier, ça marchait. Celui-là, ça marchait. Et en fait, le problème n'est pas forcément la création de ces personnages, parce que l'ego, c'est comme ça qu'il est foutu. C'est plus l'identification qu'on fait à ces personnages.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que d'un coup, on croit qu'on est ce mec qui boit, on croit qu'on est ce mec colérique. Oh, moi, je suis colérique. Non.
Oui, on reste accroché à un
on
rôle.
On reste accroché
qu'on a joué,
à ce rôle-là qui nous a sauvé la mise une fois.
C'est
où,
ça, voilà, qui a eu un rôle de protecteur à un moment dans la vie.
Voilà.
Et puis c'était un protecteur important au moment où il y en avait besoin. Donc, on reste accroché.
Et là, comme tu l'as vu, ça devient en fait la conscience du personnage.
C'est,
là que c'est au-dessus.
C'est ça,
Tu comprends? Cette conscience-là, tu vois le mec, tu dis ah, lui, là, en bas, qui buvait.
Et
ben en fait, c'était pour me protéger.
Ouais. Ah ben, il m'a protégé.
C'est plus la même chose, c'est pas moi, le buveur.
Ben, viens avec nous, et puis tiens, regarde un peu, là, c'est super, là, ce qu'on est en train
de
dire. Ah ben oui, t'as raison.
Il a dû être content de venir.
Ouais, ben voilà.
Il n'a pas regretté, lui. Hein.
Il n'a pas regretté son voyage là-haut. Et comme ça, voilà, il y a des traumas, des sujets qui sont... Je ne m'étais pas rendu compte que ça m'avait probablement plus marqué que ce que j'avais en tête.
C'est ça. Tu parlais de réécrire des chapitres de ta vie.
C'est remonté, voilà. Et puis,
nouvelle lecture.
Ouais, voilà, nouvelle lecture. Mais du coup, je n'ai pas non plus cherché à... Comme j'étais dans ce processus d'acceptation, j'ai complètement abandonné, on parlait du divan. J'ai abandonné la psycho.
Tu m'étonnes.
J'avais fait plutôt de la psycho. J'avais pas fait de psychanalyse. J'étais dans la psychothérapie plus que j'appelais d'urgence en fait, parce que la psychothérapeute qui m'a accompagné, la psychologue au quotidien quoi. Qu'est-ce que je devais l'emmerder quoi. Ouais. Je l'appelais en crise tout le temps,
n'importe quoi. De sauveteur, parce qu'en fait, notre bouclier, il ne marche plus.
Ah oui, non,
parce
ça marche
plus. Il marchait
du tout.
Pendant un moment.
Ah oui.
Non, mais c'est pour ça.
Ah oui.
On l'a usé, lui, et il ne marche plus.
Ah,
et il ne protège rien. Et donc, du coup, tu appelles la terre entière.
J'ai jamais autant.
T'as besoin
donc,
d'aide.
J'ai commencé à Alcoolique Anonyme, j'ai parlé. Moi qui étais plutôt réservé à un groupe de parole.
Tu as fait Alcoolique Anonyme aussi?
Ouais, j'ai démarré. Et puis après, j'ai fait plein de choses, mais. J'ai consommé de la...
Tu l'as fait en physique?
En physique, quoi. En
présentiel.
En physique. J'ai consommé, entre guillemets. Tout, quoi, je me suis mis à parler.
On consomme du rétablissement.
Tout le temps, je parlais pas. Là, c'est ça. Je me rétablissais, je consommais, je parlais à tout le monde de tout et de n'importe quoi.
En fait, on dit souvent que les addicts vont mettre autant d'énergie à se reconstruire qu'ils en ont mis à se détruire.
Ouais.
Donc, c'est ça qui m'a... Enfin, moi, c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est pour rencontrer le plus d'addicts possible, puisque c'est les seules personnes qui me passionnent, en fait.
Ah bah ouais.
Parce que les autres, je suis désolée, il y a une chianteur absolue. Désolée, les gens qui écoutent ça et qui n'êtes pas addicts. Non, mais parce que eux, les autres, là, les civils. Ils ont une façon de se protéger avec leur bouclier qui est acceptable par la société.
Qui est fonctionnelle.
Fonctionnelle et acceptable. Donc, eux, ils pensent qu'ils ne sont pas dysfonctionnels.
C'est comme ça qu'il faut faire.
La société les trouve super. Mais tu te rends compte, il a réussi, il a 12 voitures, il a machin. Donc, cette compulsion d'argent, de tout ça fait que... on trouve ça magnifique, c'est une vie réussie, et donc ils ne pensent pas une seconde qu'il y a quelque chose à changer. Alors que nous, on est face à la mort. Donc c'est soit on reprend en main, soit on crève, ou on laisse crever sa famille. Et donc on n'a pas le choix que de bosser. Mais c'est magnifique, on a trop de chance.
Là, pour le coup, l'instinct de survie.
Je suis désolée.
Qui est programmé en nous, là, l'élan vital, là, il a marché.
En fait, soudainement, on est obligé d'écouter notre âme.
Ah oui, tout à fait.
Qui crie. Parce que souvent, les gens font des boulots, on dit la mort dans l'âme. C'est vrai.
Ouais.
C'est vrai. Ils font des choses qui ne donnent pas de sens à leur vie. Et je pense que nous, à un moment donné, on n'a plus le choix que de chercher du sens.
Ouais. Alors, c'est un truc, le sens, etc. Donc, pareil, j'ai eu pas mal de lectures. J'avais bien aimé le livre de Frankel.
Oh là là, mais c'est mon idole.
Oh là là, qu'est-ce que j'ai pleuré.
Victor Frankel.
Oui, c'est ça, pendant ma première cure. Là.
C'est la logothérapie, thérapie par le sens.
Donc, son livre où il relate son expérience en tant que psychologue, en tant que...
Choix et compagnie.
puis il relate son expérience du camp de concentration. Et pourquoi c'est énorme, ça. Comment les gens arrivent à s'accrocher, en fait. Donc ça m'a beaucoup...
Plus récent et plus, on va dire, accessible aussi. On a un neuroscientifique qui s'appelle Sébastien Boller, qui a écrit « Où est le sens ?». Et donc, il explique pourquoi l'homme détruit la planète, et tout par rapport au cerveau reptilien. En fait, je suis obligée de vous le dire, c'est trop bien. C'est le striatum, donc il y a une zone du cerveau qui, en fait, elle, ne supporte pas que ce qu'on est en train de vivre manque de sens. Donc, dès qu'on est dans un truc qui ne va pas, il s'allume. Qu'est-ce qui se passe? Tout se met en alerte et on dit vite, trouvons un truc qui nous donne du sens. Et donc, immédiatement, tu vas faire vite. Ah ouais. Et ça, je connais. Triatum. Le ver de blanc, ça, je connais. Mmh. Ouais, c'est le cortex singulaire.
D'accord.
Cortex singulaire qui est dans le striatum. Mmh. Et donc, Sébastien Boller, il est tout petit, il s'appelle Où est le sens? Et bon, moi qui pense qu'on ne peut se rétablir que par le sens. Voilà. Très bien. Est-ce que cette psychiatre Amandine Lucquins vous a créé un lien? Est-ce que tu as l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qui est différent, Antonin, de ce que tu avais vu avant? Est-ce qu'il y a une ouverture d'esprit à quelque chose?
Elle se rapprochait de certains psychiatres que j'ai pu rencontrer, plutôt les bons, où il y a un humanisme qui est assez fort quand même. On sent qu'il y a un rapport à l'empathie, qu'il y a un rapport à l'autre qui est précieux et où elle est attentive, quoi. Elle est pas dans la, elle est pas dans le,
elle
est humaine, oui, tout simplement.
Et l'équipe, c'est elle qui l'a montée?
L'équipe, c'est elle qui l'a montée. Le projet, c'est elle qui l'a montée. On sent que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un travail d'orfèvre, quoi. Elle est hyper attentive. Et il y a une rigueur scientifique aussi qui est très présente. Enfin, l'alliance de la raison et des émotions qui est assez équilibrée, je trouve.
D'accord. Elle dit que les psychédéliques, en particulier la psilocybine, permet la pousse neuronale. Donc, c'est vraiment ce truc-là, je trouve ça génial. La dépression et l'addiction, c'est comme une restriction de la souplesse. Mmh. Et la rigidification de ce que je suis, je deviens la caricature de moi, je n'ai plus ma liberté. Mmh. Et la psilocybine restaure cette souplesse. Donc, c'est ce que j'ai trouvé assez puissant par rapport à d'autres thérapies brèves ici, c'est le fait qu'on ait quand même besoin de revivre le trauma. Donc, c'est important de revivre le trauma, t'as l'impression, toi?
Ah oui, oui. Ah oui, parce que là, je me suis retrouvé, du coup, tout nu face à moi-même, en fait. Mm-hmm. Et des choses que j'avais pas réussi, ou j'avais réussi à les faire sortir en psychothérapie, mais il n'y avait pas d'explication, c'était pas clair, c'est multifactoriel. Donc, tu peux toujours t'accrocher sur un truc et dire c'est parce que machin bidule que...
C'est parce que ma grand-mère...
On a besoin de ça, c'est parce que j'ai marché dans une flaque d'eau à l'âge de 8 ans que... Voilà, je caricature un peu, mais des fois, c'est comme ça que ça se passait dans ma tête. Ah oui, c'est ça, bon...
Tu crois que tu sais.
Ouais, tu crois que tu sais, en fait, tu sais pas. Du coup, pendant la séance, c'est vrai que ça a été au cœur, en fait. Mais c'était vu complètement différemment, en fait. C'était des acteurs de ma vie, en fait. C'est une partie de ma vie du passé qui revenait là, tout à coup, comme si elle était présente maintenant. Wow. Donc, je revivais les choses, mais de façon très adoucie et puis du tout traumatique, en fait.
J'aime bien l'image de la colline enneigée. Je ne sais pas si vous l'avez, celle-ci.
Non.
Je crois que c'est un Allemand qui dit ça. C'est comme si vous avez une colline où il y a de la neige, vous faites de la luge, vous descendez la colline, vous faites une piste dans la neige. Puis vous remontez dans la colline et vous redescendez sur la même piste. Puis au fur et à mesure du temps, la neige, elle se solidifie, elle se glace, et puis vous redescendez toujours la même piste.
Tu n'as plus le choix que de faire cette piste.
Exactement. Et les psychédéliques, ça met de la poudreuse partout.
Waouh.
Je vais prendre notre piste.
Ah, attention, la poudreuse, quand même, ça peut donner du craving à certaines personnes. Je tairai les noms. Et en parlant de, justement de ces personnes qui reviennent, et les, enfin, de choses qui reviennent, en rentrant à la maison, toi, est-ce que tu as eu envie de filmer son retour à la maison? Est-ce qu'on ne le voit pas? On ne le voit pas, hein?
On ne le voit pas. Je suis allé chez lui six mois plus tard, mais...
Parce qu'on a envie quand même de le voir rentrer chez lui, et de voir l'accueil, et de voir ce que les, la famille vit.
On a un peu envie de ça. Après, c'était assez... On l'a dealé depuis le début, c'était assez clair que c'était son expérience à lui, et que sa famille, je pense, avait... C'était bien qu'elle soit épargnée de ça, d'une certaine manière, de moi qui viens de filmer et poser plein de questions tout le temps.
Sans même avoir filmé, tu as vu, tu as assisté.
À son retour chez lui, non?
Non.
Non, non.
Et tu es allé chez lui plus tard.
Je suis allé chez lui plus tard.
Est-ce que tu étais allé chez lui avant?
Non.
Donc, tu n'as pas pu voir la différence d'ambiance.
Moi, j'ai vu.
De salle et d'ambiance.
Je l'ai rencontré quand il est arrivé au Gros du Roi, par contre.
Ouais.
Fait que j'ai pu voir la différence d'ambiance.
Comment ça s'appelle entre lui et lui-même?
Le Gros du Roi, c'est la région de Nîmes, en fait. Au bord de l'eau.
Alors, vas-y, raconte-nous, toi, comment tu as été accueilli, l'enfant prodige.
Je suis resté très connecté, en fait. J'ai pris l'occasion de ce séjour pour bloguer. Alors, c'était du blog privé, en fait. Hein. Mais j'ai découvert un outil dans le train en descendant là-bas, quoi. Bref, en discutant avec mon voisin. Bref, et je me suis mis à bloguer. Je dirais pas qu'à chaque fois que j'allais pisser, je l'écrivais, mais je racontais tout, en fait.
On peut te suivre sur un blog, alors?
Non, parce que je ne l'ai pas ouvert. Voilà, je l'ai laissé en privé, en fait. Mais toutes les personnes qui savaient où j'étais, avec qui j'avais envie de communiquer, dont ma famille proche, bien sûr, ils pouvaient suivre le blog, et donc plus ou moins suivi. Mais voilà, moi, j'écrivais sans savoir qui lisait, ni... Voilà, donc j'ai gardé une bonne... je suis resté connecté. Mais c'est vrai que quand je suis rentré chez moi, j'étais encore... Je flottais encore, hein, parce que c'était quand même... C'était 4 jours après ma deuxième prise, en fait. Hein, donc, j'étais encore perché, en fait. Hein, et je suis resté perché. La dicto que j'ai revue au mois de... Je suis rentré en fin juin. Je l'ai vue début juillet. Il m'a dit, oula, vous êtes encore... vous flottez encore. Très bien. Mais donc, je suis rentré. Je flottais encore un peu. Je pense que ça se voyait. Mais j'avais un comportement qui était probablement différent. Il a fallu du temps à mon environnement pour... Déjà, il a fallu du temps... pour comprendre, pour réaliser que, ah oui, c'est vrai qu'avant, tu étais comme ça, mais je n'avais pas compris que tu étais à ce point-là déprimé, à ce point-là.
En fait, ça a fait ressortir à quel point tu étais comme...
Voilà, ils se sont dit, ah oui, parce que là, je te retrouve tel que je t'ai connu, il y a peut-être ma femme, tel que je t'ai connu,
c'est intéressant.
Il y a un petit moment quand même.
Alors, ce qui est intéressant, c'est ça.
J'avais perdu vue de ça.
Est-ce que tu es redevenu, en fait, celui que tu étais?
Alors, je suis devenu quelqu'un de différent. Mais il y a des petits attributs du mois d'avant.
Plus proches de celui d'avant.
Qui avaient été bien, bien masqués, en fait.
Mais qui existaient.
Et qui sont ressortis, en fait.
Les bons, tu veux dire. Les bons attributs.
Bon, chose différent.
Déjà, le lien avec les gens.
Ouais, le lien, l'intérêt pour les autres, l'intérêt pour moi-même.
De prendre soin de toi.
Arrêter de prendre soin de moi, arrêter toutes ces visions négatives.
Tu n'en as plus, en fait?
Jugement. Non, je ne suis plus du tout dans le jugement, je ne suis plus dans la vision négative.
Bah, ça, c'est un éveil, hein. Un vrai de vrai.
Tu vois, je suis reparti faire une course. Je me dis, je mettrais 12 heures, j'en ai mis 14, mais j'étais content. Je me dis, déjà, tu l'as fini, ça aurait pu être 16. Donc,
En fait, est-ce qu'on peut dire que tu es rempli d'amour?
Oui, c'est ça, ouais. D'ailleurs, c'est ce que j'avais écrit. Non, mais c'est vrai. C'est...
Excuse-moi, enfin, tu connais les expériences de mort imminente. Ils reviennent tous comme toi. Ils ont tous vu Jésus qui leur a donné plein d'amour.
Non, mais c'était une des premières choses que j'ai écrit sur mon blog. C'est ce que, finalement, je me suis dit, tiens, c'est ce que je recherche. C'est un peu d'amour, un peu plus d'amour, plus de considération.
Et ça m'intéresse ce que tu dis, parce qu'il faut bien parler aux gens et leur dire, quoi qu'ils fassent, que ce soit l'ayahuasca au Pérou ou ailleurs ou ça, il y a l'intention qui compte le plus.
Ouais.
Moi, je me rappelle que je m'étais préparée d'abord mentalement et surtout physiquement. Mmh. Je m'étais purifiée. J'avais fait tout ce qu'on m'avait demandé pendant 2 mois, mais j'avais plus regardé une seule série. Non, mais je voulais...
Ah oui, moi, c'est pareil.
Voilà, je voulais être pure, en fait, pour que ça
nettoie.
J'ai dit,
je fais pas de porno, mais je vais pas en
faire. J'ai pas voulu parler de porno immédiatement, mais comme tu parlais de compulsion. Non, mais on sait très bien que toutes ces images, toute cette violence et tout ça, en tout cas, elle nourrit pas ce genre d'expérience.
Non, tout à fait, ouais.
Et donc, je voulais pas faire justement de bad trip. J'avais envie, j'avais une seule chance, c'était là.
Ouais,
Et donc, je me suis vraiment nettoyée et j'ai vécu un orgasme de chaque parcelle de chaque cellule. C'est-à-dire, et je disais, en fait, c'était tellement d'amour que je savais, j'ai compris. J'ai dit, ok, c'est insupportable pour nous humains d'être aimés comme on est là-haut. Je disais, ok. Stop, je pleurais, je disais, ça fait mal, ça fait du bien, ça fait mal. Mais il y avait une espèce de surdose d'amour insupportable pour nous, êtres humains.
Ouais. Et pourtant, moi, je l'ai bien supporté, cette surdose d'amour. Hein. Elle
oui, mais par vraiment... contre, c'est ça que je veux dire. Je l'ai demandé. En fait, j'ai demandé de m'aimer. J'ai demandé aussi de savoir qui je priais, parce que j'avais commencé à prier. Je voulais savoir qui je priais. Et en fait, tout ce que j'ai noté, quand je suis sortie de cette séance, j'avais les réponses à tout.
Oui, ouais, mais c'est ça. Ouais.
Il faut y aller avec des intentions.
Oui, il faut y aller avec des intentions.
C'est l'intention qui compte. Et d'ailleurs, dans beaucoup de retraites spirituelles, on dit ce n'est pas ce que tu fais qui compte, c'est l'intention avec laquelle tu le fais.
Oui, c'est ça. Ouais. Bah, d'ailleurs, la nyctomanie, bon, vous aviez, ce qu'il m'a dit, m'a félicité. Je dis, bah, non, quoi. J'ai eu la chance de. Et puis voilà.
En plus,
quoi,
humilité.
Mais non, mais vous aviez l'intention, en fait, parce que c'est lui qui m'avait suivi en hôpital de jour. Voilà, j'avais cette intention et ça en fait partie, en fait. Effectivement, ouais, c'est...
Alors là,
tu
ne
sais
septembre...
pas trop où tu vas, mais tu pars quand même avec ton baluchon en disant, bon, là, je pars pour un voyage, quoi.
Tu sais que tu vas.
Je ne sais pas encore très, très bien où.
Mais il y a une foi, en fait.
Et il y a le côté une foi. Hein. J'ai bien senti que c'était ma chance, en fait.
Ouais, hein. Donc, mais ça, pour moi, c'est encore un message. C'est encore... tu as été guidé, en fait. C'est de la guidance. Quand tu fais quelque chose et que tu ne sais pas pourquoi, c'est que c'est guidé.
Ouais, et puis moi, l'autre regard que je mettrais là-dessus, ça serait peut-être que John utilise dans le sujet l'image de la rivière. Mmh. J'ai l'impression que les traumas et les structures psychiques qu'on construit à partir de nos traumas, c'est comme si c'était des barrages dans la rivière qui fait que l'amour, elle a du mal à se balader, quoi.
Ah, ouais, ouais.
Et les psychédéliques ou la thérapie en général, en fait, c'est quand même, l'idée, c'est de déblayer cette rivière pour qu'on soit plus fluide, qu'on se laisse traverser par les choses.
Tu dis parce que tu parles pas de la chose, tu parles de l'amour. Donc c'est l'amour qui est bloqué, en fait.
L'amour, l'élan de vie, la volonté d'être, oui, c'est ça. C'est, bon,
Spinoza, tout ça.
C'est la vie, quoi.
Non, la vie.
Oui, c'est ça.
Le Dieu, selon Spinoza, c'est ça. Mm-hmm.
Et je pense que la souffrance qui s'agrège, on n'a plus envie d'être en vie, parce que c'est trop dur.
Ouais.
Et moi, quand j'ai pu, avec tous les sujets que j'ai pu faire dans les hôpitaux psy, c'est souvent ça, c'est de la souffrance qui peut pas être s'exprimer, il y a des normes, il y a des situations sociales où ils sont écrasés, ils n'arrivent pas à l'exprimer, et du coup, ils vont de plus en plus vers la mort.
D'ailleurs, on dit que partout où il y a de la souffrance, il y a un manque d'amour.
Donc, bien sûr.
C'est-à-dire, c'est vraiment, en fait, si au lieu d'ajouter de la peur ou quoi que ce soit, on met de l'amour, en fait, les choses coulent.
Et ce qui est, là, ce que j'ai réalisé, c'est aussi que cet amour, il venait de l'intérieur.
De toi.
C'est-à-dire que c'est...
en fait, tout était déjà là.
J'ai arrêté de... Voilà, exactement. J'ai arrêté de dire, c'est les autres, c'est machin. C'est dans moi. Et je suis sorti de là en me disant, ok, t'as vu ce que t'as vécu là, tu peux le faire tous les jours, quoi. Donc,
c'est génial.
C'est,
mais là, on est en train de donner envie. C'est pour ça qu'on va terminer. Déjà, je vais t'expliquer qu'en septembre 2024, on a eu aussi l'hôpital Sainte-Anne qui a commencé à administrer la psilocybine à des patients dans le cadre d'un essai clinique international. Quel message, en fait, tous les deux, vous souhaiteriez transmettre à des personnes déjà qui luttent contre les addictions? Est-ce que pour vous, c'est une voie de guérison qui mérite vraiment d'être durable? Est-ce qu'elle est durable et accessible vraiment à tous?
Ça, on ne sait pas encore. Je pense que
ce que vous pensez.
Moi, je pense que c'est le grand enjeu, c'est le soin. C'est de penser à se soigner soi, à avoir une société qui soigne. Bon, ça, c'est plus de l'ordre de nos dirigeants que nous-mêmes.
Et qu'est-ce que tu dirais à des gens qui auraient envie de le faire, à part d'attendre?
Après, ils sont libres d'aller en Suisse, d'aller en Australie, d'aller dans les pays où c'est légal.
Mm-hmm. C'est facile de faire ça?
La Suisse, on m'a dit que c'était relativement facile. Après, je pense que ça va devenir, si tout le monde y va, ça va être compliqué. Après, je pense que vraiment, c'est impressionnant parce que c'est bruyant.
C'est bruyant.
L'expérience, c'est le professeur Lucas qui dit ça, l'expérience est bruyante. Enfin, ça dure 6 heures, il y a des hallucinations fortes, etc. Mais je pense vraiment qu'une psychothérapie avec un bon ou une bonne psychothérapeute, avec un rapport au corps, que ce soit de la musicothérapie, que ce soit du tai chi, de l'équinothérapie, je sais pas. En fait, c'est de réussir à revenir au corps et de réussir à retrouver une sorte de fluidité. C'est un peu plus long qu'avec des champignons.
Et toi, tu vois comment à long terme ta vie, en fait, est-ce que tu sens que t'as évolué, que c'est terminé, ou est-ce que tu sens que t'es sur un process?
En fait, j'ai changé de mode, en fait. Là, maintenant, je vis.
Ah, donc, en étant survie avant.
C'est
pas à dire,
mais j'étais en survie. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est
mode survie horrible.
J'étais vraiment en survie. Hein, et c'était même plus de la survie. Là. Ça devenait...
En fait, on arrive à faire des choses, mais en dépit de notre état.
Ouais, voilà. Ouais, c'est ça.
C'est la survie.
Ouais, des fois, je pouvais m'étonner que, tiens, je me suis pas fait choper.
C'est ce que c'est, un bon lendemain de quelque chose, et tu te dis pourquoi je m'inflige ça, quoi.
C'est l'enjeu de réussir à s'habiter, quoi, se réhabiter en tout cas.
De se réapproprier son soi.
Mm-hmm. Et de se ressentir, mais parce qu'à l'intérieur de soi, ça peut être tellement désagréable, tellement en souffrance qu'on n'a pas envie d'y être. Fait qu'on,
je comprends.
On s'en va.
En tout cas, je trouve que c'est plein d'espoir, pas pour nous, là, tout de suite, forcément, mais pour même nos enfants, et puis pour l'humanité, quoi, de revenir à ces plantes entéogènes.
Bah, finalement, ouais, c'est presque surprenant, ou c'est étonnant qu'on s'en soit...
qu'on s'en soit passé jusque-là.
Autant écarté, je pense que ça... Non, mais ça montre bien l'écart qu'il y a entre la façon dont nos sociétés vivent aujourd'hui, et puis la réalité des choses, qui est la nature, en fait. Hein, et,
enfin, tu veux dire le capitalisme
s'est tellement éloigné de la nature, on ne donne plus de sens à quoi que ce soit, en fait. Hein,
c'est quand même pour ça qu'elles ont été interdites dans les années 60, 70. Ouais, enfin, c'était une vague contestataire qui était trop forte.
Ouais,
c'est
hein.
une façon
alors qu'on voulait être productif, nous. Hein.
Ouais. Exactement.
Ah, mais rien branler, ces gens-là.
En plus, c'est une vraie connerie. Parce que la nature est beaucoup plus productive que
bien
nous,
sûr,
en fait.
C'est de l'abondance.
Elle l'air de rien, sur Terre, ça a mis des milliards d'années, en fait, hein, arriver à ça. Mmh. Donc, c'est super présomptueux de se dire, moi, avec mes 30 ans d'existence, ou 40 ans d'existence, ou 50, je fais mieux que mère nature.
T'as une mission, toi. Et la mission, ça va être justement de transmettre ce que t'as
vécu.
Ouais. Et donc, tu parlais du sens tout à l'heure avec Viktor Frankl, et puis il y a Nietzsche qui dit qu'il a trouvé un sens à sa vie, peut tout supporter. Ouais. Et j'ai envie de vous laisser là-dessus, mes amis.
Ben, merci.
Merci pour vos connaissances.
C'est super. Et
voilà. Et t'as ton bagou, hein, parce qu'en fait, on est deux à parler beaucoup. Désolé, Antonin.
Pas de souci.
À bientôt.
Merci.
Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre. Un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol.
C'était l'émission Contre-Addiction avec Rose sur IDFM Radio. Rendez-vous lundi prochain de 21h à 22h. Retrouvez le podcast sur rose-lecite.fr et idfm98.fr.